socialisme. Jusqu'à la fin, donc, il est resté, même quand il était pendu, il est resté communiste, lui. Donc, il faut quand même savoir. Il s'est considéré comme vraiment qu'il a servi dans toute sa vie la cause de la classe ouvrière. Il était exécuté en 1958. Il y avait une dizaine de personnes exécutées avec lui, donc qui étaient les figures clés de la révolte. Je parle de révolte, pas de révolution, parce que bon, il y avait en même temps contre-révolution, c'est-à-dire il y avait beaucoup de tendances dans ces événements, mais on ne peut pas discuter, c'était une révolte. Et même, je dirais que c'était une révolte donc, de libération contre l'occupation soviétique.
Voici Imre Nagy. On le voit ici, chef du gouvernement hongrois. Il est mort aujourd'hui. Condamné à mort par un tribunal secret. Exécuté après un procès à huis clos dont le monde n'a appris l'existence qu'après l'exécution. On n'a pas oublié le drame de Budapest. Ce drame d'un peuple fier qui, ligoté depuis 12 ans, essaie de retrouver le son de certains mots. Liberté, indépendance. Drapeau, manifestation, oriflamme. Imre Nagy redevient chef du gouvernement, incline vers une libéralisation du régime conforme aux vœux du peuple. Et puis, c'est l'avalanche des chars soviétiques. Budapest criblée de blessures. Et dans le silence des villes mortes, un peuple qui rentre dans le silence. La destruction de Budapest a sonné le glas de la liberté hongroise. Mais cette destruction et cette fin avaient besoin d'un épilogue. C'est fait aujourd'hui. Imre Nagy a été exécuté.
Donc, dans un premier temps, c'est les forces de la police et des détachements de l'armée hongroise qui répriment la rébellion. Et puis, enfin, c'est les chars soviétiques qui arrivent. C'est les fameuses images des chars soviétiques qui arrivent le 4 novembre. Vous étiez gamin ?
J'avais 4 ans. Et je me souviens des chars, j'ai des images.
Il y avait des bases soviétiques
bien
dans
sûr,
la région ?
Bien sûr, tout à fait, absolument. Il y avait des bases soviétiques. Hein.
Et qui ont tiré dans la foule ?
Tout à fait, oui, bien sûr. Parce qu'il y avait une résistance armée contre les soviétiques, donc c'est pour ça qu'il y a de véritables luttes.
Lutte armée, de résistance.
Pour les révoltés, il n'y avait pas un état-major centralisé, mais il y avait des groupes de résistance un peu autonomes, qui avaient des relations entre elles. Il faut quand même savoir, donc, ce qui reste quand même une sorte d'énigme aussi pour les chercheurs et pour tout le monde, que le parti a réussi à gagner le soutien une grande partie de la population hongroise, 6 mois après la révolte. Hein. On ne sait pas comment, donc pourquoi. Finalement, donc c'est ce qui prouve que finalement, dans la majorité de la population, il n'y avait pas quand même un soutien très actif ou très réfléchi de ces révoltes.
Alors, conséquences, répercussions, je disais tout à l'heure, dans le monde entier, mais notamment en France, en 1956, le Parti communiste français était extrêmement puissant, il y avait beaucoup d'électeurs, et le journal L'Humanité, l'organe central du Parti communiste, était extrêmement puissant. Et là, nos amis de l'UMA d'aujourd'hui nous ont envoyé des fax-similés des numéros de L'Humanité de l'époque. Et là, j'ai un papier, enfin, photo d'un papier d'André Steele, un certain André Steele, qui sévissait dans ce journal à l'époque, et avec un titre qui dit « Budapest recommence à sourire ». Évidemment, ceux qui, les insurgés donc, que nous évoquons, avec Victor Lugosi, étaient vus comme des fascistes, et face auxquels il fallait aucune espèce de faiblesse. Mais j'évoquais tout à l'heure l'interview de Jean-Paul Sartre,